Mission Epsilon. Bah, on avait quand même l'autre, là, Pesquet.
Ouais.
Bon, mais on aura une femme. C'est bien. Et en plus, elle est belle.
Ah oui, vous l'avez vue ?
Oui, blonde. Très sympa.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, l'émission dont la devise pourrait être « toujours plus loin, toujours plus haut ». Puisqu'après vous avoir initié aux sensations fortes du kiteski au pôle sud hier avec notre émission sur l'expédition en Antarctique d'Eddy Sevest, après avoir exploré aussi les limites de l'humour noir avec l'imitation de Jack Lang par Quentin...
Ah, je suis Pierre Courade, quel bel homme. Pas que j'ai un ami, j'ai comme Jeffrey, j'ai... C'est un bel homme.
Aujourd'hui, on pousse le curseur de l'aventure un peu plus loin encore, puisqu'on va carrément viser les étoiles. À l'occasion du lancement de la mission Epsilon, qui va emporter notre astronaute Sophie Adno sur l'ISS, on devait à la base faire cette émission d'ailleurs depuis l'ISS. C'était l'ultime décision d'Adèle Von Redt, qui m'avait dit « Foutu pour foutu, autant cramer la caisse, fais-toi plaisir Mathieu ». Tout était donc calé. Lundi, on se serait envolé pour Cap Canaveral en Floride. Mardi, visite de Disneyland avec goûter d'anniversaire de Pierre Courade au château de Cendrillon. Mercredi, décollage. Hélas, une embrouille avec la NASA a tout fait capoter. Cyril, refusant catégoriquement, je cite, de manger de la merde en tube, avait exigé de pouvoir emporter 3 kilos de pâté croûte dans l'ISS pour sa survie, aussi bien physique que psychique. Lui emboîtant le pas, la Marianoche avait alors demandé à pouvoir embarquer 12 mignonnettes de Jack Daniels ou à défaut 17 litres de Porto, sachant que selon le théorème de Lolo-Katé, 17 litres de Porto dans l'espace n'équivalent qu'à un verre sur Terre. La négociation s'est envenimée, le ton est monté et devant ce que Cyril a appelé l'entêtement borné de ses condriquins, décision a été prise d'annuler la mission Zoom Zoom Z dans l'espace. C'est donc depuis le plancher des vaches que nous présenterons cette spéciale consacrée à la mission Epsilon, qui devrait donc décoller vendredi, la météo n'étant pas favorable aujourd'hui. Alors en quoi consiste cette foutue mission? Qu'est-ce qu'on fait et comment on vit dans l'ISS pendant 8 mois? Est-ce qu'on s'emmerde pas un peu là-haut? Surtout qu'à cause de cette histoire de pâté croûte, eh ben, les astronautes ne pourront pas se détendre en écoutant les bonnes imitations de Quentin.
Ah, je suis Pierre Courade. Quel bel homme.
Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes Alain, journaliste, directeur de la rédaction de Ciel et Espace et directeur général de l'Association française d'astronomie. Vous êtes un vrai passionné, on est toujours très heureux de vous recevoir pour nous expliquer ce qui se passe au-dessus de nos têtes. J'ai même vu qu'un astéroïde portait votre nom, Alain. Oui. Comment on peut avoir un astéroïde à son nom?
Bah, c'est parce que j'ai un copain astronome qui a découvert un astéroïde. Et puis alors,
c'est du piston.
Après avoir donné, comme il a découvert beaucoup, il avait donné le nom de sa femme, après de ses maîtresses, de ses chiens. Et il lui restait ses copains. Et en fait, ça marche pas complètement comme ça. Il faut justifier, mais c'est l'Union Astronomique Internationale qui décide au bout du compte que si vous avez œuvré, par exemple, pour la vulgarisation scientifique...
Comme vous, pendant toutes ces années.
Bah, vous pouvez... Alors moi, je suis très content parce que pour l'instant, il ne menace pas la Terre, mais on ne sait jamais.
Ça serait con qu'Alain Siroux détruise l'humanité, quand même.
En tout cas, menace, ça serait déjà pas mal.
Ça serait déjà. Vendredi, donc, la spationaute française Sophie Adno va s'envoler pour cette station spatiale internationale pour entamer la mission Epsilon. Elle est la seconde française à partir dans l'espace et la première depuis la mission de Thomas Pesquet. Que va-t-elle y faire? Pourquoi c'est toujours important de partir dans l'espace? Quelles sont les prochaines grandes missions? La Lune, Mars? Vous allez tout nous raconter, juste le temps de vous présenter ceux qui auraient mis une sacrée ambiance dans l'ISS. Les soirées karaoké avec vue sur la Terre, ça aurait eu de la gueule, surtout après quelques verres de Porto. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. En apesanteur en plus, ça serait trop cool.
Oui, on pourrait chanter.
Ah ouais.
C'est vrai.
Oui, non, ça ira.
Non, mais la chanson.
Non, oui, mais ne convoquons pas Calogero aussitôt dans l'émission. Si vous voulez, c'est déjà suffisamment douloureux comme ça.
En fait, j'ai eu Jack Lang.
C'était
Céline Dion là.
À vos côtés, Alain, déjà qu'elle a peur en avion, elle n'emmènerait pas large à la place de Sophie Adno. À quelques heures de la mise à feu, Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Il a une icône de l'aviation américaine. Il a été le deuxième homme à poser son pied sur la Lune et il y a un jouet très célèbre qui s'inspire de lui.
Face à vous, Alain, lui, je pense vraiment, j'en suis intimement convaincu qu'il est le seul membre de l'équipe qui aurait pu être astronaute. Car avec le karting, son corps est déjà habitué à encaisser léger. Il est courageux. Il n'a pas eu peur d'essayer toutes les disciplines les plus extrêmes des JO de 2024, même si son nez n'est plus tout à fait droit après ce fatal coup de pagaie qui s'était pris en canoë-kayak. Surtout donc, Quentin n'a peur de rien, ni du décollage en fusée, ni de manger de la merde pendant 8 mois. Il s'en va déjà tous les jours à la cantine de Radio France. La seule chose dont il a peur, c'est le fisc. Et justement, l'ISS, c'est peut-être le dernier endroit où l'URSSAF ne viendra pas le chercher. Quentin, vous serez peut-être un jour le premier homme à réaliser un micro-trottoir sur la Lune.
J'aimerais beaucoup.
Bref, c'est tout, voilà.
J'ai cru que vous alliez penser.
Non, j'aimerais beaucoup, c'est vrai.
En attendant, les passants sur Terre, ils en pensent quoi de cette mission Epsilon ?
Bon, il y a un héritage pesqué dans les rues quand on aborde l'ISS et les missions spatiales. J'ai arrêté 3 personnes et 3 générations différentes autour de notre présence dans l'espace. Et autant vous dire qu'en plus de faire rêver, ça fait aussi réfléchir et parler. Quand la rue parle de l'espace, ce sera dans la prochaine demi-heure.
Vers 16h30, Alain sera invité à se taire afin de mieux laisser Manon et Quentin s'humilier. Dans le Zoom Zoom Test spécial ISS, on jouera avec les phénomènes étonnants qui se produisent.
Ah, voilà.
En apesanteur.
Après 17h, restez avec nous puisqu'on parlera d'un doc passionnant diffusé demain sur la justice restaurative, quand la justice permet aux victimes et aux coupables de se parler. Mais d'abord, Alain Sirou zoome donc sur cette mission Epsilon. Sophie Adnaud devait à l'origine partir dimanche, puis ça a été avancé à aujourd'hui. Et lundi, on apprenait que le décollage ne sera finalement que demain, avant d'être de nouveau décalé à vendredi. Pourquoi autant de changements de date ? Est-ce que ça arrive souvent ? Comment on vit ce genre de changement de calendrier quand on s'apprête à partir dans l'espace ?
On est très zen.
Ah oui ?
Parce que quand on a attendu 20 ans... On n'est pas à quelques jours près. Et puis, l'objectif, quand on envoie des hommes et des femmes dans l'espace, c'est de les ramener vivants.
Oui, ça c'est bien.
Donc, il y a eu de très mauvaises expériences avec la navette spatiale. Mmh. 2 accidents, 14 morts. Ce n'était pas nécessairement lié au vent, mais il y a des impératifs qui s'appellent la météo. Donc, vous voyez ces images, vous avez rouge lanceur, rouge météo. Rouge. Donc, il y a des conditions très strictes. Et actuellement, sur Cap Canaveral, il y a beaucoup de vent en haute altitude. Et pour ne pas avoir de perturbations sur la fusée, ils attendent finalement que les conditions soient meilleures.
C'est juste la météo, c'est pas un problème technique.
Pour l'instant, non. C'est juste la météo. Ça pourrait être un problème technique plus tard.
Mais, pour l'instant, c'est la météo.
Seule la brute n'évolue pas. Donc pour l'instant, on est assez tranquille. Mais je dirais que c'est assez classique. Et vous savez, entre le succès et l'échec, en matière spatiale, il y a souvent l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette.
En matière radiophonique aussi, vous le savez. Lui aussi, Alain, il est fasciné par l'espace. Forcément, il avait 17 ans quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune. Événement qu'il a suivi en direct devant la vitrine d'une boutique de téléviseurs, puisqu'en 69, à Porto-Combo, les La Carrière n'avaient pas encore de poste à demeure. Alors, il aurait aimé la faire, cette émission dans l'ISS. Mais voilà, il a quand même quelques principes qu'il ne peut pas sacrifier sur l'autel du gai savoir. Le plus important de ces principes étant le pâté en croûte. Cyril, c'est donc en studio que vous nous racontez l'ISS, d'où ça sort.
Imaginez un appartement de la taille d'un terrain de football qui vole à 400 km au-dessus de nos têtes à 28 000 km/h. C'est l'appartement le plus cher jamais construit dans l'histoire de l'humanité, plus de 100 milliards de dollars. Bienvenue dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, un symbole de paix et de coopération. Au départ, pourtant, dans les années 80, l'ISS est un projet 100% américain. Ronald Reagan veut contrer les soviétiques qui ont déjà leur station. Il lance le projet Freedom. Mais cette liberté ne décolle jamais et elle se transforme même en gouffre financier.
Mais la bascule arrive au début des années 90.
1993, l'URSS s'effondre et la Russie est une ruine économique. Mais eux, ils ont la station Mir, déjà mise sur orbite en 1986. Et c'est comme ça que naît l'idée d'une collaboration entre Russes et Américains. Bill Clinton propose de fusionner le fameux Freedom et Mir. Les Américains apportent le cash et les navettes, les Russes apportent les modules et l'expérience de la vie en orbite. Et comme plus on est de fous, plus on rit, l'Europe, le Japon et le Canada rejoignent la fête. Le premier module Zarya est lancé par les Russes en 1998. Et c'est le début du plus grand jeu de Lego de l'histoire. Pendant plus de 10 ans, les navettes spatiales vont monter les pièces une par une pour rassembler ce monstre dans le vide de l'espace. Alors, d'où ça sort cette station spatiale internationale ? Eh bien, de la preuve que des pays peuvent collaborer, et c'est un joli début d'histoire.
Il est déjà bourré, et le machon, c'est demain 9h, je le rappelle. Donc attention Cyril, vous avez pris de l'avance, visiblement.
Vous avez fait saliver avec le pâté croûte.
Oui, c'est ça. Alain Sirou, c'est donc dans cette station spatiale internationale que va se retrouver notre Sophie Adnaud nationale. Arrêtons-nous un instant sur cette station. Américains, Russes et Européens cohabitent, même en ce moment, même quand les relations diplomatiques sont extrêmement tendues, voire il n'y a plus de relations diplomatiques parfois, sur Terre, ça continue dans l'espace, c'est le dernier endroit de paix totale.
Ça a toujours été ça. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Vous pouvez rajouter les Japonais, les Canadiens. En fait, il faut imaginer un lieu qui est une ambassade, qu'on peut qualifier de plein de choses. Par exemple, d'immeubles en copropriété. Alors voilà, le plus gros propriétaire, le plus gros appartement est américain. Et puis vous avez l'appartement russe qui est pas mal. Les Européens ont un studio bien aménagé.
Attendez, je vous arrête là-dessus tout de suite. C'est une image juste ou c'est aussi physiquement les Américains ont plus de place dans l'ISS qu'un appartement plus grand?
Ils ont plus de place. Ah oui, il y a des modules qui sont plus importants et il y a des modules qui sont ce qu'on appelle des nœuds communs où en fait les gens se retrouvent. Donc il y a des endroits qui sont des endroits presque nationaux en quelque sorte, c'est-à-dire où la législation américaine s'applique, où la législation russe s'applique.
Ah, carrément.
Absolument. En termes de droit, c'est extrêmement important. Et effectivement, tout le monde vit ensemble, mais dans l'espace, vous savez, c'est, il faut du temps. C'est-à-dire que les conflits au sol, on les regarde de haut, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ils suivent l'actualité
Oui. Bien sûr, ils sont en direct, ils reçoivent les infos exactement comme nous. D'ailleurs, en ce moment, ils peuvent nous passer un coup de fil sans aucun problème s'ils nous écoutent.
Ah, aujourd'hui, c'est techniquement
Absolument.
Possible.
Ils sont en lien permanent avec la Terre et ils peuvent vraiment nous joindre à tout moment. Mais c'est vraiment une ambassade extraordinaire et remarquable pour le compte.
Faisons le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette ISS? Est-ce qu'il y a une cuisine, une salle de sport, une salle de bain? Est-ce qu'il y a un jacuzzi? Enfin, des questions qu'on se pose.
Ben oui, alors déjà, pour répondre à votre question, il y a 3 toilettes.
C'est
une question qu'on me pose souvent, c'est où sont les toilettes? Il y a 3 toilettes et elles servent généralement à servir le café le lendemain. C'est-à-dire que c'est recyclé.
Oh mon Dieu.
Mais c'est ce que dit Sophie Adnaud, d'ailleurs. Elle dit, le café que vous buvez le matin, il a été pissé la veille. Elle ne le dit pas peut-être exactement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est un objet et un vaisseau autonome. Mais surtout, il faut l'imaginer en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous avez donné la superficie, mais vous imaginez que vous pouvez dormir au plafond ou vous pouvez dormir sur le mur. Là où vous dormez, c'est l'équivalent d'une chaussette un peu fixée, n'importe où, alors vous choisissez, et puis vous flottez dans cet environnement en 3D.
Et comment on peut dormir en flottant?
Il y a des scratchs, c'est-à-dire vous êtes serré, vous attachez. Certains on n'a pas besoin.
Pareil aux toilettes?
Le plafond, parce que c'est plutôt rigolo.
Aux toilettes, on s'attache aussi, j'imagine?
Pas complètement, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, c'est des systèmes aspirants, enfin, c'est extrêmement sophistiqué quand même, mais il faut que ça dure et c'est là depuis très longtemps.
Mathieu Noël sur France Inter.
8 mois à se tourner les pouces sans pouvoir bouffer des rognons à la crème, l'aventure spatiale, ça sera sans moi, avait écrit Cyril Lacarrière dans son dernier mail au directeur de la NASA. Finalement, c'est depuis la maison de la radio à Paris que nous zoomons aujourd'hui sur la mission Epsilon qui devrait décoller après-demain. Le directeur de la rédaction de Ciel et Espace, Alain Sirou, est avec nous. Alain, cette mission Epsilon est donc portée par la spationaute française Sophie Adnaud. C'est elle qui en est responsable ?
Non. Il y a un chef, ce qui est une chef, qui dirige la mission, et puis à bord de la station, il y a quelqu'un qui dirige la station spatiale et ça tourne. En fait, c'est son premier voyage. Pour les autres, certains sont déjà partis.
Ils sont déjà allés, d'accord.
Donc en fait, il faut être un peu capé. Simplement, Sophie Adnaud a attendu très longtemps pour partir et aujourd'hui, je dirais, l'essentiel, c'est qu'elle y soit. Pour elle, ce qui est merveilleux, c'est d'y être et elle le dit d'ailleurs. Vous parliez d'avoir fait cette émission possible à bord de la station. Elle appelle ça son plan B. C'est-à-dire que le plan A pour elle, c'est ce qu'elle explique, c'est de faire ce qu'elle veut de sa vie d'abord, ça c'est le plan A, puis le plan B, si on part dans l'espace, c'est génial. Et donc ça, j'adore, parce que elle vit dans son rêve, pour le compte, tout en faisant un vrai travail.
C'est quoi cette mission Epsilon? Qu'est-ce qu'elle va faire?
Alors, je vais vous donner une définition qui va vous paraître bizarre, mais le travail d'astronaute, d'après Jean-François Clairvoy, qui a volé 3 fois à bord de la station, je vous donne exactement le mot qu'il dit, c'est un travail d'opérateur de machine complexe dans un environnement contraint. Ça vous fait rêver.
C'est moins sexy que ce qu'on imaginait.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes qui sont passées à bord de la station. Et tous collaborent à des expériences qui sont très diverses et certaines durent depuis des années et des dizaines d'années.
Ah, on reprend une expérience c'est possible, on peut reprendre une expérience qui est en cours depuis longtemps.
Tout à fait, et puis en emmener des nouvelles. Mais en gros, c'est quoi? En gros, c'est on étudie la façon dont le corps humain se comporte en apesanteur, parce que sur la Terre, on est influencé par la gravité. Si on enlève la gravité, qu'est-ce qui se passe? On a le cœur qui bat trop vite,
N'en dites pas trop parce qu'il va y avoir dans le zoom test des questions qui sont relatives aux effets de l'apesanteur. C'est tout à fait grave, Quentin, c'est tout à fait grave, une séquence importante de l'émission.
Donc on étudie ça, puis on étudie plein de choses sur les matériaux, sur la physiologie, on fait des tas et des tas et des tas d'expériences, elle participe à 200 expériences, et il y en a beaucoup plus que ça.
Mais j'ai lu que sur la mission Epsilon, ils allaient quand même essayer de préparer le futur, notamment d'un point de vue technologique, pour d'éventuelles explorations habitées vers la Lune et Mars.
Oui, ça c'est la prochaine destination. En tout cas, la Lune, c'est la prochaine destination. Rien n'interdit de penser que Sophie Adnaud ira un jour sur la Lune. Possiblement, dans les années qui viennent, il y aura un astronaute ou une astronaute européenne sur la Lune, et pourquoi pas elle, finalement.
J'ai lu que la mission Epsilon devrait durer 8 mois.
Oui.
Ces 8 mois seront aussi mis à profit pour faire de la pédagogie auprès des plus jeunes. Est-ce que c'est important de sensibiliser, on va dire, les plus jeunes aux enjeux spatiaux d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on ne les comprend pas forcément.
Alors, pas seulement les enjeux spatiaux, bien sûr les enjeux spatiaux, parce que d'abord, je vous rappelle que c'est nous les contributeurs, hein, c'est-à-dire c'est notre argent, etc. Mais aussi, c'est une inspiration pour les jeunes filles. Elle le dit très bien, elle le dit, moi quand j'avais 12 ans, j'ai vu Claudie Aigneret partir dans l'espace. Elle avait, alors, Mathieu n'avait pas ce poster-là dans sa chambre, mais elle avait un poster de fusée, elle, dans sa chambre, à 12 ans. Et donc, son rêve, c'était de partir dans l'espace.
Pourquoi il n'y a eu que deux femmes, d'ailleurs ?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons sociologiques. Mmh. C'est compliqué pour les femmes. C'est un métier... Alors, il y a eu 13 personnes, hein, 13 Français, il y a eu 13 Européens, pardon, qui sont allés dans l'espace, dont une Française et une Italienne. Donc, c'est pas beaucoup. Le reste, c'était des hommes. Donc, il y a des conditions.
C'est plus compliqué physiquement ?
Non. Non ? Pas physiquement, c'est culturellement. Mmh. Vous savez qu'il y a peut-être 20 à 24% des femmes dans les métiers scientifiques. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de percer.
Et pardon, juste une question sur Sophie Adno elle-même, parce que je me rends compte qu'on n'a même pas présenté, on ne sait pas d'où elle vient, vous la connaissez, quel est son background ?
Elle coche toutes les cases qui ne sont pas les nôtres, hein, Mathieu.
C'est-à-dire,
elle a fait des études supérieures, elle est ingénieure, elle a fait le MIT aux États-Unis, elle a fait super-héros, elle est pilote d'essai d'hélicoptère, elle est prof de yoga, elle joue de la musique. Ah si, par contre, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a quelque chose, elle a un charisme. Et je dirais que du Palais de l'Élysée au Café de la Place à Camaret, tout le monde la connaît. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui, quand elle sourit, on part avec, quoi. Et ce côté qui est la jeune fille hyper capée, enfin la jeune fille, elle a 42 ans maintenant, hyper capée mais extrêmement déterminée et puis prête à partager les choses, nous fait un rayon de soleil dans un monde qui est un peu pluvieux, comme vous l'avez remarqué.
Un rayon de soleil un peu comme vous, Alain Siroux, un des derniers journalistes à avoir pu interviewer Neil Armstrong, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, directeur général de l'Association française d'astronomie, mais aussi inoubliable interprète de Tilala Talala. Car oui, sur Europe 1, on enregistrait même les off. Et ce que je vous diffuse là est évidemment la partie émergée de l'iceberg qu'on peut diffuser à une heure de grande écoute.
Quoi ?
Sinon, j'ai des sacrés dossiers de Alain. Alain est donc avec nous pour évoquer la mission Epsilon qui va s'élancer vendredi. Et l'heure est venue, Quentin, de nous raconter ce que les gens dans la rue pensent de cette mission.
Je regarde le ciel en marchant le long d'un boulevard à Paris. Et sur un banc est assise cette dame à qui je demande si elle voudrait bien se prêter au jeu d'un micro-trottoir. Je m'assois. Quel est son prénom ?
Françoise.
Françoise, est-ce que j'ai le droit de vous demander votre âge ?
Non, mais je suis senior. Mission Epsilon. Bah, on avait quand même l'autre, là, Pesquet. Bon, mais on aura une femme, c'est bien. Et en plus, elle est belle.
Ah oui, vous l'avez vue ?
Oui, blonde. Très sympa.
Je lui parle de l'ISS, ce lieu où finalement se côtoient 26 nationalités.
Donc, quand on est dans un truc spatial... Et où on est petit, on peut être russe, anglais, tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence. On est être humain et on pense que on doit s'entraider. Sauf que...
Je sais pas, ça pourrait être une source d'espoir, d'utopie, de vivre ensemble sans frontières, quoi.
Je crois pas.
Ça marche que quand on est en dehors de la Terre, quoi.
Exactement.
Comme elle se revendique senior, j'ose cette question qu'on ne peut pas poser tous les jours.
Vous vous souvenez de quand l'homme a marché sur la Lune ? Vous étiez jeune, trop jeune.
69. Ouais. Bah, j'étais jeune, oui. Plus jeune.
Vous vous en souvenez ou pas ?
Oui. Bah, on a trouvé ça très beau, très intéressant, et en même temps, on a pris des cailloux et puis on est reparti. Hein. Ça m'a pas fait grand-chose.
J'arrête maintenant cette lycéenne. Les cheveux blonds, les yeux clairs. Elle plisse les yeux pour découvrir...
Mission Epsilon. Epsilon.
Je lui explique cette mission de la Française Sophie Adno. À bord de l'ISS, elle m'arrête.
Après, il y a plein de rumeurs qui disent qu'on n'est pas vraiment allé en haut. Après, moi, je dis ça comme ça.
Oui, mais bah, Thomas Pesquet, il a envoyé des photos et tout.
Oui, mais déjà, on a eu la preuve que le drapeau ne bougeait pas.
Ah, tu parles de la Lune.
Ouais, c'est quoi là ?
L'ISS.
Ah, merde.
C'est la Station Spatiale Internationale.
Comme c'est la première à aller sur terrain, je lui demande si elle pense si l'homme est déjà allé dans l'espace.
Je crois pas qu'on est allé dans l'espace. Il y a des stations spatiales et tout, mais je pense pas qu'on est vraiment encore allé sur l'espace. Parce que je suis chrétienne et en fait il y a la tour de Babel et on nous a expliqué que on s'est battu pour aller toucher les étoiles et en fait à cause de ça on a été séparés. Il y a des langues différentes. Maintenant on peut plus tous communiquer comme avant. Voilà, moi je le sais comme ça.
D'accord.
Un peu.
D'accord. J'aime bien votre d'accord, Quentin.
Cette bouche bée, Quentin.
Un peu médusée, parce que me répond cette jeune femme. Mais les complots autour de notre présence dans l'espace faisant aussi partie de ce que l'on peut entendre dans la rue, j'ai trouvé important de vous le faire écouter. Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme de 27 ans.
Mission Epsilon. Epsilon ou Epsilon ?
Ouais, c'est la question. On parle d'envoyer une femme, une Française, dans la station spatiale internationale. Vu l'actu depuis quelques mois, c'est quand même une bonne nouvelle.
Car dans la société française, j'ai pas l'impression que ça passionne tant de monde que ça, finalement. Je sais pas.
Ouais, il y avait quand même eu un engouement
Thomas Pesquet,
quoi. Ouais,
c'est vrai qu'il y a eu un sacré engouement. Après, je pense que lui, il a... Je sais pas, le bon profil aussi, peut-être pour les médias, donc il avait une bonne capacité à se vendre. C'est peut-être le fait que bah, il n'y en a pas eu depuis, que ça a peut-être retombé un peu. Quoi,
alors, mais... c'est vrai que la romance entre Pesquet et les Français, inscrite dans le marbre par une communication parfois jugée excessive, c'est dur de passer derrière. Mais pour ce jeune homme, c'est vraiment un peu moins dans notre culture.
Mais ouais, mais vu que, parce que le lancement des fusées se fait pas en France métropolitaine, ça c'est en Guyane ou
voilà. Ah,
France.
C'est jamais tiré de Paris.
Ah ouais, non, c'est jamais tiré. Non, oui.
Du Bourget, ce serait rigolo.
Ouais. Non, mais parce que c'est vrai que si on compare avec les États-Unis, c'est vrai qu'il y a une vraie culture d'aller voir les lancements, etc. Ou ça construit un peu le rêve spatial, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est peut-être un truc qu'on voit un peu moins, en tout cas à Paris. C'est vrai que je suis pas.
Ah non, mais on imagine que s'il y avait une fusée qui décollait du Bourget.
Non,
on
mais
tout
tu
cela,
vois, même du. Non, même du sud, ou je sais pas, Toulouse, ou je sais pas, dans d'autres régions de France où les gens pourraient se retrouver pour effectivement voir des lancements. Peut-être que ça créerait un nouvel engouement.
Je reviens avec lui sur le fait que dans l'espace, on cohabite tous ensemble, dans l'ISS, même entre pays qui s'affrontent ici sur Terre.
Bah, ça en dit long sur l'être humain, hein. Je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est vrai que quand on sort dans l'espace, c'est sûr que. On n'est pas sûr d'en croiser beaucoup des comme nous, donc je pense que c'est directement les gens, ouais, les barrières tombent et tout, hein, c'est sûr. Bon, après, on verra le jour on sera installé. Ouais, moi je pense quand même que si jamais vraiment il y a un truc où on commence vraiment à partir dans l'espace, à utiliser, je sais pas, les météorites ou les planètes qu'on trouve, je pense qu'on reviendra sur des bonnes guerres comme on sait bien en faire, malheureusement.
Tu penses pas qu'il y aura un truc, on avance sous la barrière humanité?
C'est possible.
Possible, mais pas sûr. Et c'est peut-être ça, le vrai vertige de l'espace, à 400 km au-dessus de nos têtes, des nations qui apprennent à vivre ensemble, contraintes de coopérer pour survivre, là où pas de frontières, pas de discours, pas de posture, juste des corps qui flottent et des cerveaux qui s'accordent, comme si l'apesanteur nous rendait plus intelligents que la gravité.
Merci Quentin. Alain Siroux, moi j'aimerais revenir, alors pas sur les délires complotistes, sur le fait qu'on ait marché ou pas sur la Lune, néanmoins il y a une question qui peut-être génère ce genre de théorie, c'est qu'on a marché sur la Lune en 69, la technologie depuis 69 a explosé dans tous les domaines, et aujourd'hui ça paraît très compliqué de retourner sur la Lune. Et alors, pourquoi c'est compliqué de retourner sur la Lune en 2026?
C'est compliqué parce que les technologies ont changé. Et puis surtout...
Elles ont changé en bien,
c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez une fusée, c'est bourré d'électronique. À l'époque, ça ne l'était pas. L'ordinateur, ce n'était pas grand-chose. Mmh. Mais en même temps, dans la fusée Apollo, il y avait 2 millions de pièces. Et quand on parlait avec les concepteurs de cette fusée, ils disaient « Oui, mais même si on a 99,9999% de réussite, il y a encore 1000 pannes possibles. » Donc les astronautes passaient leur temps à simuler des pannes et à répéter ces erreurs-là. Aujourd'hui, et on considérait à l'époque qu'ils avaient, alors Gagarine le premier, on estime qu'il avait une chance sur deux de revenir. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça à un astronaute, t'as une chance sur deux de revenir, c'est pas possible.
Donc il faut être sûr, sûr, sûr.
Il faut être sûr, et surtout plus personne ne supporte l'échec, c'est-à-dire que c'est un enjeu aujourd'hui multinational, et surtout pour les... Alors, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, c'est une question de prestige. Et s'il y a un échec, eh ben, l'échec, il est cuisant pour l'image de la nation.
Oui, pardon, j'étais dans mes notes. Oui. Est-ce que justement une mission, là, comme on va le voir, peut mal se passer, ou est-ce que vraiment on est arrivé à une technologie tellement avancée que c'est absolument impossible?
Non, ça peut tout peut toujours mal se passer, vraiment à tous les points de vue. Par contre, ce que disent toujours les astronautes, c'est qu'ils répètent tout pour que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'ils aient les réflexes. Et effectivement, ça peut mal se passer au décollage. Bon, après, ils ont eu
le plus dangereux, c'est le décollage.
Alors, le décollage est une phase compliquée, dangereuse, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est émise. Hein. C'est l'équivalent en puissance d'une trentaine de TGV d'un coup qui part, et vous partez, et il faut rejoindre à 28 000 km/h la station spatiale. À bord de la station, c'est pas de tout repos. Une partie de leur travail, c'est de faire de la plomberie, de l'électricité, de changer les...
Oui, parce que vous nous disiez hors antenne que c'était un peu désuet, maintenant.
C'est une vieille station. Ouais. Elle a maintenant une trentaine d'années.
Vous nous disiez, il peut y avoir le feu dans l'ISS.
Alors ça, c'est quelque chose qui est redouté par tout le monde, parce que c'est le feu dans un endroit clos. Et donc, il faut avoir les réflexes. Ouais. Il peut y avoir une micrométéorite ou un débris spatial qui heurte un bidon et qui crée une dépressurisation.
Ils savent réagir à ça.
Alors, ils sont entraînés pour ça. Et il y a... alors ça va vous effrayer, mais il y a 15 000 procédures à apprendre.
D'accord.
Pour les astronautes.
Heureusement que j'ai pas candidaté.
À bord de la station pour pouvoir y aller. Donc, ils ont à chaque fois des procédures et ils ont des vaisseaux de secours. C'est-à-dire, ce qui leur permet de monter leur permet aussi de redescendre. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accident majeur, mais il y a eu des alertes. Il y a eu des alertes en particulier lorsque, avec les soviétiques, et puis russes par la suite, il y a eu une collision entre un vaisseau spatial et la station Mir. En ce moment, il y a des fuites à bord. Il y a des petites fuites qui font que vous avez des déperditions d'air. Puis, de temps en temps, il faut remonter la station. Enfin, il se passe toujours quelque chose. Et
on se tourne pas les pouces, quoi.
Voilà, on se tourne pas les pouces et chaque seconde est chronométrée, en quelque sorte.
Je reviens sur l'ISS où les conflits disparaissent, on travaille main dans la main. Vous êtes d'accord avec ce jeune homme qui dit que quand on aura posé nos valises sur la Lune ou ailleurs, on reviendra à des guerres comme on sait les faire ?
Je pense pas, parce que tous les hommes avec qui j'ai discuté, qui sont allés sur la Lune, il y en a eu une douzaine qui ont marché sur la Lune, sont revenus tous différents. Ah, il m'a montré à chaque fois une pièce en disant « Regarde, regarde ça, ça c'est la Terre vue de là-haut. » Eh bien, quand tu regardes la Lune autour, c'est froid, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien à manger. Enfin, c'est triste, quoi, c'est mort. Et on sait que la petite boule bleue là-bas, c'est là où sont nos copains, notre famille, notre resto préféré, mon petit coin à Camaret, mon petit... Et c'est là où on aime finalement cette terre qu'on a ignorée comme étant un endroit unique, exclusif, et où il y a la vie.
Il faudrait envoyer tous les dictateurs sur la Lune en stage, comme ça ils reviendraient apaisés, probablement.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Qu'avons-nous donc fait aux astronautes français ? 3 ans que Thomas Pesquet me laisse en vue sur un stage. Jamais je n'ai été autant humilié depuis la fois où Olivier Rousteing n'avait répondu à aucun de mes 12 DM. Résultat, on se retrouve aujourd'hui à faire 1 heure sur la mission Epsilon de Sophie Adnaud dans l'ISS avec Alain Siroux. Même pas une syllabe en commun, soi-disant parce que madame serait déjà en Floride pour se préparer au lancement. Attention Sophie, à pas devenir snob avant d'être connue. Mais allez, pas rancunier je suis, puisqu'on va quand même jouer au Zoom Zoom Test. Un spécial secret d'astronaute. Non Alicia, tu peux enlever cette musique ? Pas ce genre-là de secret. Quoique. Jouons au Zoom Zoom Test.
Dommage.
Non, ça sera pour après, puisque le gagnant du Zoom Zoom Test remportera Sex in Space, le livre de chevet d'Alain Siroux qu'il nous a apporté, qui est interdit par la NASA. Vous verrez, c'est passionnant. Et on démarre par ce phénomène physiologique qui, à lui seul, explique que Quentin rêve d'aller un jour dans l'espace. Séjourner dans l'ISS permet de grandir de plusieurs centimètres. La question est évidemment de combien. Alors, à vos calculettes. Si jamais demain, lassé de dominer la NBA, Victor Wembanyama décide de partir en mission sur l'ISS, quelle taille fera-t-il à son retour sur les parquets, sachant qu'il fait actuellement 2m24. Il fera 2m27, 2m29 ou le chiffre rond de 2 Quentin.
Ah, j'ai dit avant.
Mais pourquoi vous dites...
C'est mais parce pas que vrai. Je l'ai dit.
Mais c'est pas... vous l'avez dit en même
temps. Peu importe, puisque la bonne réponse était la réponse B.
Ah.
Effectivement, 2m29. À son retour de l'ISS,
mais vous avez dit 3 cm hier.
Wemby sera... Oui, mais j'ai dit n'importe quoi hier. Justement, pour vous induire en erreur, Wemby sera complètement injouable puisqu'il mesurera 2m29, soit 1,5 Quentin. Dans l'espace, le phénomène de la microgravité fait qu'en apesanteur, la colonne vertébrale est étirée. Résultat, l'astronaute grandit en moyenne de 3% de sa taille sur Terre. Ah. Chez Thomas Pesquet, ça représentait 5 cm. À noter que ses chevilles, elles, avaient enflé dans des proportions bien plus importantes encore. Mais restons focus sur l'objectif de la mission, arriver sain et sauf à bord de l'ISS.
Jamais,
là-haut, c'est un peu l'auberge espagnole, on l'a dit. Les Américains, les Français, des Japonais, des Canadiens et même, oui, désolé Cyril, des Russes, des Popov, comme dirait notre ami le colonel Pierre de Jong. Mais pas de Chinois, puisque la Chine a sa propre station spatiale, Tiangong, plus petite que l'ISS, car conçue pour accueillir seulement 2 Yuangonautes, de Yu, univers, et Hang, voyager. 3 Taïkonautes, je vous demande comment s'appellent les... 3 Taïkonautes, de Taïkon, le cosmos. Ou 4 longonautes, de long, le dragon.
B.
A.
B.
Ben non.
Quoi ?
Vous êtes sûr de votre réponse ?
Bah non, mais bon.
Non, vous n'êtes pas sûr. On en a déjà parlé dans Zoom Zoom Zen. C'est effectivement les taïkonautes. Évidemment, quand un réponse B, je vous présente...
Vous en avez déjà parlé, mais comment vous en souvenez ?
Yang Liwei, qui fut le tout premier taïkonaute à rallier la station de Tiangong en 2003 à bord de Shenzhou 5. Un voyage marqué par un phénomène sonore troublant. D'après vous, lequel ? Un toc-toc-toc bizarre contre la paroi du vaisseau. Un bruit semblable au chant d'une baleine à bosse ou un bruit semblable à celui qu'émet Alain Siroux quand il est bourré. Imaginez, vous êtes seul dans l'espace, vous entendez ça, vous flippez.
Bah oui, est-ce que...
Ouais.
Je vais dire autre chose, peut-être, B.
C'était effectivement une bonne réponse de Manon Mariani. La réponse A, toc-toc. toc toc, c'est qui? C'est le Gai Savoir. Ouvrez-moi, ça caille dehors. Non. Fascinant, Cosmos. Fascinant, car oui.
J'ai des frissons de gêne maintenant.
J'imagine. Moi aussi. Yang Li Wei a entendu un son étrange, comme si quelqu'un frappait contre la paroi de son vaisseau spatial avec un marteau. Malgré ses vérifications par le hublot, l'astronaute, enfin le taïkonaute, n'a trouvé aucune explication, puisque le son ne circule pas dans l'espace. Pourtant, le phénomène dit du toc-toc impossible a été à nouveau constaté par la suite en 2005 et 2008. Un phénomène toujours donc inexpliqué, sauf par Cyril, qui, très déçu de son dernier achat sur Temu, nous disait hors antenne « Les fusées fabriquées par les Chinois, c'est comme leurs poupées gonflables, ça craque de partout. » Mais restons dans l'ISS. Restons dans l'ISS, on y est si bien, puisque figurez-vous que c'est Anne-Sophie Pic qui a préparé les menus de Sophie Adnaud. Écoutez ça. Soupe à l'oignon au baies rose et croûtons gratinés, volaille au poivre de Votesperi, fèves tonka et polenta crémeuse au comté, crème au chocolat à la fleur de noisette et au café. Des larmes de joie coulent sur le visage buriné de notre rédacteur en chef en régie, ce qui serait impossible dans la station spatiale, car dans l'espace, les larmes ne coulent pas. Elles forment une boule au coin de l'œil. Ou les glandes lacrymales sont tout simplement bouchées en apesanteur, ou dans l'espace, on pleure de la poudre de sel.
Ah,
je suis devant, je crois.
Et je pense qu'effectivement, Manon est devant.
C'est
bonne
fou.
Réponse c'est de Manon. Incroyable. Réponse à fascinante nature en apesanteur. On y grandit de 5 cm, on pleure des bouboules de larmes. Et ce n'est pas tout, un autre phénomène se produit quand on se tape de la polenta crémeuse Anne-Sophie Pic à 400 km au-dessus du plancher des vaches. Selon vous, lequel? On perd 30% de sa vision, ce qui pour Manon, la taupe du 12e, signifierait devoir apprendre à lire en braille. On perd la corne des pieds. Quoi? Où on sent le barbecue.
Quoi? Non, voilà. j'ai pas assez suivi.
Eh bien, ces trois possibilités physiologiques, qu'est-ce qui se passe dans l'espace?
Les trois?
Oh, les trois! Vous avez à peine écouté la question et vous avez la bonne réponse! C'est fou! C'est fou, Quentin!
C'est fou, Quentin! C'est fou, bravo!
Et oui, Quentin! Je ris!
Et oui, Quentin, réfléchissez-y à deux fois avant de vous inscrire à cette formation de la NASA. Vous mesurez peut-être enfin vraiment 1m70 à votre tour, mais en contrepartie, vous y verrez aussi Claire Carole Barbet et vous sentirez la merguez grillée à 3 km. Pas sûr que vous soyez gagnant. En effet, l'accumulation du sang dans la tête affecte la vision, mais aussi aplatit légèrement les globes oculaires. Quant à l'odeur de brûlé, les astronautes la décrivent comme proche de celle qui imprègne nos vêtements quand on sort d'un déjeuner aux Amman, notre Libanais de cœur, en rue de Versailles. La réalité est en fait moins réjouissante. Sophie Adnaud, si tu nous entends, écoute bien ça. T'as peut-être encore le temps de renoncer à la mission. Sur une commande de la NASA, le chimiste Steve Pearce est parvenu à reproduire l'odeur de l'ISS. Pour s'en faire une idée, il dit qu'il faut imaginer l'odeur de transpiration des pieds, un corps qui dégage un parfum rance et mélanger le tout avec du dissolvant et de l'essence. De quoi, clairement, selon moi, ruiner l'expérience Anne-Sophie Pic. Donc, chère Sophie, si vous voulez découvrir ce qu'elle fait, faites comme moi. Elle est plutôt à Valence. Défaite de la gastronomie et victoire de Manon Mariani, notre reine de l'espace. Vous remportez, Manon, Sex in Space.
Ça, je suis super contente.
Le livre de chevet d'Alain Sirou. Et c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur cette question.
Qui propose quand même des positions du Kama Sutra dans l'espace.
Exactement.
Alain veut le récupérer, je crois.
Non, Alain, je pense qu'Alain veut le récupérer. Il est très précieux pour lui. Mais surtout, j'avais prévu une question tout à fait chaste. On parlait de conquête spatiale, c'est toujours d'actualité ce terme. En fait, on s'en fout de cette question. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on baise dans l'espace, Alain?
Alors, il y a plusieurs réponses. La première, c'est ils auraient tort de se priver. La seconde, c'est que la NASA l'interdit. C'est-à-dire que. Oui, bien sûr. Ça ne fait pas partie des protocoles habituels et évidemment, il n'y a pas eu d'expérience déclarée comme étant celle de tenter ça. Tout doit être déclaré dans l'espace parce que tout peut avoir des conséquences sur l'environnement, y compris les fâcheries entre couples ou entre garçons et filles.
Il y a eu des couples dans l'ISS ?
Bien sûr, il y a eu des couples déclarés, d'autres pas déclarés. Et en fait, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire que là, il faut vivre 8 mois ou 9 mois ensemble, mais imaginez tous les trois partir en bateau ensemble. Ça pourrait arriver pendant 9 mois. Il peut se créer des relations particulières et puis vous pouvez vous fâcher. Or, si vous partez vers Mars ou vers Mars en particulier, c'est 2 ans aller-retour, imaginez un équipage qui a des problèmes de relations. Donc, il faut que ça soit stable. Donc, on étudie particulièrement les relations entre les hommes et les femmes. Qui est dominant, qui finalement apaise les choses.
Donc ils se connaissent quand même très bien avant.
Alors ils se connaissent bien avant, et puis surtout on étudie la façon dont ça se passe, parce que si une femme dirige, quelle est la réaction par rapport aux hommes? Et puis il y a les questions de nationalité. Au début les Russes n'aimaient pas du tout être dirigés par un commandant américain, par exemple. Et pour vous illustrer enfin cette question-là, elle s'est posée très tôt, au moment du vol Apollo-Soyouz, où on s'est dit, tiens, entre Américains et Russes, on va créer un vaisseau commun, on va se docker ensemble. personne ne voulait faire la prise mâle et personne ne voulait faire la prise femelle. Oh là là. C'est-à-dire qu'il a fallu inventer dans les ambassades une prise androgyne qui soit mâle et femelle parce que
L'humanité est mal barrée quand
mais
même.
Tout a un sens.
Et question importante, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Des caméras, tout simplement, puisque vous dites qu'il faut faire des rapports, mais est-ce qu'il y a des caméras qui observent les astronautes?
Alors,
dans
la réponse est oui, mais les caméras, ça se débranche. Donc, il y a des moments
5 à 7
qui sont...
coquins, hop, on débranche la caméra.
Il y a des moments d'intimité, et évidemment, il y a des moments où c'est on et d'autres où c'est off.
Elon Musk a annoncé dimanche qu'il voulait construire maintenant une ville autonome sur la Lune. Alors, on sent que peut-être c'était un peu loin Mars, il a refait ses calculs. Est-ce que là, il faut accorder un quelconque crédit à ces déclarations d'Elon Musk?
Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je pense que Elon Musk, quand il fait ce type de déclaration, c'est qu'il a une intention derrière, qui est de vendre des produits. Il a une idée, il a une conviction profonde, c'est que l'homme doit aller sur Mars et qu'il doit tout faire pour... Alors, je ne sais pas si c'est un rêve d'enfant, si c'est quelque chose qui est...
Mais scientifiquement, ça ne tient pas debout.
Alors, scientifiquement, on pourrait aller sur Mars, mais je vous présente l'addition et oui. Vous allez avoir une crise cardiaque. Et puis ensuite, c'est un voyage extraordinairement compliqué.
Qu'est-ce qu'on y fait en plus? Vous disiez que les gens que vous avez interviewés sur la Lune trouvaient ça mort autour d'eux et qu'ils voulaient revenir
sur Mars. Ils vont pas être déçus.
Mars, on a l'impression que c'est une planète qui s'est éteinte. On vient sur un cimetière. Peut-être.
Vous n'avez pas l'âme de l'explorateur. C'est-à-dire que tous les explorateurs vous diront, et c'est ce sur quoi joue un Elon Musk, c'est la nouvelle frontière, c'est-à-dire l'espace est la nouvelle frontière. Et Mars, c'est la chose qu'il faut atteindre parce que c'est encore plus loin. Et ça, c'est l'idée des pionniers américains.
Quentin, je vous offrirai le nouveau numéro du Ciel Espace, justement, avec la nouvelle carte 3D de la Voie lactée que vous attendiez pour mieux vous y repérer. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un astronaute.
Vers l'infini et au-delà.
Alors évidemment, je ne vous parle pas de Buzz l'éclair, mais de la vraie personnalité qui a inspiré son personnage, Buzz Aldrin. Son vrai nom est Edwin Eugene Aldrin Jr. Et son surnom, très marrant, vient de sa petite sœur qui, lorsqu'elle était enfant, prononçait mal le mot « brother » et disait « buzzer ». Du coup, le nom est resté et Aldrin finira, mais oui c'est trop chou, par l'adopter officiellement comme son prénom. Buzz Aldrin naît en 1960 dans le New Jersey, dans une famille liée à l'aviation, car son père est lui-même aviateur. Il a volé avec l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Très tôt, il se distingue par son goût pour les maths, la mécanique, les trajectoires. Il intègre l'académie militaire de West Point, puis devient pilote de chasse dans l'US Air Force. Et pendant la guerre de Corée, il effectue 66 missions de combat. Il est crédité de 2 victoires aériennes. Après l'armée, il reprend ses études au MIT, où il soutient, en 1963, une thèse de doctorat en astronautique consacrée aux techniques de rendez-vous orbital entre vaisseaux spatiaux. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est très drôle. À la NASA, ce travail lui vaut le surnom de docteur rendez-vous. Voilà, je trouve ça mignon. Et puis évidemment, 6 ans plus tard, Buzz Aldrin est sélectionné pour la mission Apollo 11 aux côtés de Neil Armstrong et de Michael Collins. Et le 21 juillet 1969, les trois hommes vont entrer dans l'histoire. Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune en prononçant cette phrase culte, évidemment un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et 19 minutes plus tard, Buzz Aldrin descend à son tour sur la surface lunaire et devient donc le deuxième être humain à fouler la Lune. Dans les transmissions, il décrit le paysage en 2 mots, une magnifique désolation. Alors son retour sur Terre va quand même être plus compliqué. Buzz Aldrin quitte la NASA, traverse une dépression, lutte contre l'alcoolisme. Il expliquera que le plus difficile n'a pas été d'aller sur la Lune, mais de retrouver une place dans une vie ordinaire après avoir vécu un événement hors norme. Aujourd'hui, il est âgé de 96 ans. Buzz Aldrin continue de défendre l'exploration spatiale, s'exprime aussi publiquement sur la santé mentale des astronautes. Il appelle ça le blues de l'espace.
Merci Manon. Alain Sirou, le blues de l'espace, c'est vraiment ça qu'il a ressenti?
Ah oui, oui. Vous savez qu'il a fait la messe sur la Lune. Il avait emmené un petit hôtel portatif avec un peu de vin et une hostie, et avant de sortir, il a fait la messe. Mais moi, je les ai rencontrés tous les deux, et j'ai demandé à Armstrong, dit comment c'était, il m'a dit mieux qu'à l'entraînement, et Aldrin, je lui dis comment c'était, il m'a dit je m'en souviens plus, parce que ça a duré 5 heures dehors, et puis tous les jours depuis 25 ans, on me demande 5 fois par jour, alors comment c'était, la réponse est je ne sais plus.
France Inter, Zoom Zoom Zoom.
Mathieu Noël.
C'est à présent un moment émouvant pour notre invité Alain Siroux, qui, en tant que directeur général de l'Association française d'astronomie, avait dans sa vie deux rêves. Rencontrer le premier homme à avoir marché sur la Lune, Neil Armstrong, et le vice-président du club astronomique de Lourdes, Pierre Courade. Ayant déjà rencontré Neil Armstrong, il avait fait la moitié du chemin, mais il lui restait en bouche un goût amer d'inachevé. C'est donc Alain, avec un immense plaisir, que je vous présente le vice-président, enfin plutôt l'ex-vice-président de l'Astroclub Lourdais, Pierre-Alain. Alain Pierre.
Enchanté.
Enchanté, moi aussi.
On est assez émus.
Oui, bien sûr. Vous échangerez hors antenne. Pierre, bon, il est temps de nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur la mission Epsilon en une minute chrono.
Je suis surtout très honoré de rencontrer quelqu'un qui portait le même nom qu'un astéroïde. Alain Siroux de Ciel et Espace est venu nous expliquer la mission Epsilon à laquelle participe la spationaute française Sophie Adenau. Elle doit décoller vendredi après plusieurs reports pour cause de problèmes météo. Un vendredi 13, hein, mieux vaut ne pas être superstitieux quand on part dans l'espace. C'est ce que se disaient aussi les astronautes de la mission Apollo 13 avant de décoller. Sophie Adenau, elle doit rejoindre la Station Spatiale Internationale pour réaliser une série de 200 expériences scientifiques à 400 km au-dessus de nos têtes. Alain Siroux nous a expliqué qu'elle allait par exemple étudier comment le corps réagit en apesanteur. Elle testera aussi des matériaux, autant de tests qui ne peuvent se faire que dans l'espace et qui vont servir sur Terre, le tout dans le dernier endroit où les êtres humains ne se font pas encore la guerre. Sophie Adenau sera notre ambassadrice, elle sera aussi la deuxième française à nous regarder depuis l'espace. Elle est ingénieure de formation, pilote d'essai et très bonne communicante. Elle devrait susciter des vocations comme Thomas Pesquet. Elle a 8 mois pour ça. À mon époque, c'était Claudie André-Dé, qui ne s'appelait pas encore Claudie Aigneré, qui me faisait rêver, elle, et évidemment Alain Siroux.
Et évidemment, ça va sortir. Et qu'est-ce que vous faisiez exactement au club astronomique de Lourdes ?
Mais c'était l'Astroclub Lourdais, qui est l'un des plus importants. En plus, c'était le seul du département. Non, je n'étais pas le seul membre. C'est l'un des premiers du département.
Et
on est au pied du pic du Midi de Bigorre. On est au pied du pic du Midi de Bigorre.
Alain, vous connaissez l'existence de ce club ?
Très bien. Oui, j'y suis allé faire une conférence une fois.
Voilà, avec notre président fondateur qui est toujours là.
Une belle histoire. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Sa connaissance à lui de l'espace ne dépasse pas l'univers de Star Wars, mais qui sait, peut-être qu'un jour il aura son étoile. Sur Hollywood Boulevard, voici Harold Barbet.
Vous savez qu'un jour, j'ai saigné des oreilles à cause de l'apesanteur.
D'être allé dans l'espace?
Non, à cause de la chanson en apesanteur de Calodiron, ça m'a fait saigner des oreilles. Enfin bref, quelle passionnante émission. J'ai quand même une pensée pour Cyril qui, en rentrant chez lui ce soir, s'exclamera plein de rage auprès de Madame La Carrière. Non mais tu te rends compte, non seulement ils disent que la Terre est ronde, mais en plus que soi-disant qu'on aurait marché sur la Lune, bientôt ils vont demander de me faire vacciner. Culé de reptilien. Vous pensez que comme Sophie Adenau avec Claudie Aigneré, il y a des stagiaires de 3e qui en repartant d'ici se disent « Eh, j'ai eu un déclic, je veux vraiment être comme Cyril de la Carrière. » Non. L'histoire est incroyable. Non. Personne n'y croit. L'histoire est incroyable. Sophie a une révélation adolescente en voyant le décollage de la première spationaute française, Claudie Aigneré. Et aujourd'hui, à 43 ans, elle va à son tour participer à une mission spatiale. Quand je pense que l'on dit que l'espoir est mort, mais pas du tout en vrai. Moi aussi, à 15 ans, j'ai vu un coup franc de David Beckham avec Manchester United, un chef-d'œuvre. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse samedi prochain contre les U16 de Bayeux. Et bah pareil, comme Sophie, ça a fini dans l'espace. Après, pour être honnête, c'est bien d'être impacté et inspiré par quelqu'un, mais encore faut-il avoir des prédispositions qui te permettent de faire pareil. Je suis pas certain que si j'aille dans un ESAT, dans le Poitou, et que je montre le décollage de Sophie aux travailleurs en situation de handicap, et qu'il y en ait un qui me dit qu'il veut faire pareil, bon, faudra lui expliquer, quoi. Non, Bruno, tu n'iras pas dans l'espace. Toi, tu as atelier boudin noir ce matin. Le plus proche d'une fusée que tu verras, c'est le suppositoire qu'on va te mettre ce soir pour traiter ta constipation. Mais moi, c'est pareil, hein. Je suis comme Bruno, hein. Je suis dans la team suppo. Ce que je veux dire, c'est que croire en ses rêves, ce n'est pas uniquement du talent. C'est surtout de l'abnégation et beaucoup de travail et énormément de sacrifices. Nous, on avait un gars dans notre équipe de badminton au collège, Moufette, on l'appelait. Il dégageait une très forte odeur de racondin en période de sudation. Et bah, Moufette pouvait jouer I Will Survive en PDSL durant 4 heures non-stop. Un talent indéniable, mais ça lui a pas permis de devenir chef d'orchestre pour autant. Ça fait rêver, l'espace, c'est quelque chose qui tient de l'irrationnel, presque de l'intangible. Le spatial est même consacré dans nos expressions quotidiennes. On dit « il a sorti un rô de l'espace ». Les explications lunaires de Jack Lang. « Viser la Lune, ça ne me fait pas peur ». Ça, c'est Abel Bent, hein, c'est pas Jack Lang. Ça, rien ne fait plus rêver que l'espace. Qui n'a jamais levé les yeux au ciel un soir d'été et contemplé la Voie lactée plein d'admiration en oubliant même de faire tomber la dernière petite gougoutte alors qu'on arrose les géraniums de belle-maman. Moi, ce qui m'impressionne le plus...
Le vécu, donc.
Bah, je suis un poète, moi. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le parcours de Sophie Adeno. Genre, ingénieur, MIT, lieutenant-colonel. Tout ce qu'elle a entrepris, elle l'a réussi. C'est incroyable. Je pense pas qu'en faisant un tour de table rapide, nous puissions avoir cette prétention. Mais quand même, est-ce que quand on réussit tout ce qu'on entreprend, il n'y a pas un petit moment de lassitude malgré tout ? Oh non, j'ai réussi à observer la trajectoire précise d'un électron dans un atome sans décohérence. Normalement, c'est impossible. Oh, j'en ai marre de toujours tout réussir. Et moi, quand je découvre une femme brillante comme ça, je veux la suivre et la soutenir dans son aventure. Donc je me suis abonné à son compte Insta et j'ai vu uniquement 74K followers. Tu vois, c'est pas beaucoup pour la deuxième française passionnante de l'histoire. Et bah, force est de constater que, pour bon nombre de personnes, le vide de l'influence cosmétique paraît plus attirant que le vide cosmique. Et là, on peut légitimement se poser la question... Bordel, pourquoi il a arrêté cet astéroïde Bruce Willis?
Ça, c'est une vraie question. Merci Harold, on vous retrouve la semaine prochaine. Et en tournée, cette semaine, le 13 à Besançon, le 14 à Caudry, le 26 mars à Paris, pour une date unique, au point virgule. Merci Alain Sirou d'être venu nous expliquer la mission Epsilon. Je renvoie nos auditeurs vers le dernier numéro de Ciel et Espace, qui est magnifique, consacré à notre place dans l'univers. Et je signale aussi que vous êtes le co-auteur du beau livre Les Hommes de la Lune, les enfants de la génération Apollo, que vous avez publié avec notre collègue Jean-Philippe Ballas aux éditions du Seuil. Zoom, zoom, zen.